Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique et le développement du continent passe par les Africains eux-mêmes avant tout. Voilà pourquoi je vous propose votre émission Coémergence, un rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
Mehdi 1, Coémergence, Oumar Baldé.
Bonjour et bienvenue dans votre émission Coémergence. Cette semaine, nous serons à Abidjan pour parler de la toute première édition du Build Expo, un salon international dédié à la construction, à la décoration et aux technologies. Ce sera l'occasion de parler de l'évolution de l'industrie immobilière et de la construction sur le continent. Les détails dans un instant. Dans ce numéro également, nous parlerons de l'industrie financière africaine, une industrie en pleine mutation, mais qui doit faire face aux cyber-risques. Notre invitée, Ramatoulaye Goudiaby, directrice de l'Africa Financial Summit, l'AFIS, reviendra largement sur le sujet. Ce sera dans quelques instants. Et nous parlerons de commerce en ligne en Afrique et nous serons en Afrique de l'Ouest pour voir comment ces activités continuent de se développer et leur adoption par les consommateurs. Ce sera dans le Zoom Express. Tels sont les principaux sujets de votre émission. Tout de suite, le développement.
Les échos de la semaine.
Direction la Côte d'Ivoire, où vient de se tenir la toute première édition du Build Expo, un salon international dédié à la construction, à la décoration et aux technologies. C'était l'occasion de parler de l'évolution de l'industrie immobilière et de la construction sur le continent. Les détails dans ce reportage de Mel Berchel depuis Abidjan.
Pour la première fois, la Côte d'Ivoire accueille le Building Expo, le plus grand salon international du bâtiment, de la construction, de la décoration et des technologies de la sous-région. Ibrahim Demir, directeur pays ATLM Expo, et Sangaré Seriki, président de la Chambre des promoteurs agréés de Côte d'Ivoire.
Aujourd'hui, dans notre salon, il y a beaucoup d'investisseurs qui sont déjà là. Ce sont des producteurs, ils sont dans l'énergie, construction et climatisation. Ce sont des marques qui sont connues dans le monde. Maintenant, c'est eux qui vont faire des investissements ici en Côte d'Ivoire. Et puis, ils vont faire beaucoup de choses dans le développement de la Côte d'Ivoire.
Notre objectif, c'est de pouvoir réduit le déficit du logement qui est en Côte d'Ivoire, qui se chiffre aujourd'hui à plus de 836 000 logements et qui, malheureusement, s'accroît chaque année. Donc, si nous ne réunissons pas autour de nous ceux qui ont l'expertise concernant la construction pour que les coûts puissent être réduits et ça, pour qu'on puisse aussi, bien évidemment, atteindre la cible. La cible, c'est le secteur informel, ceux qui n'ont pas suffisamment de fonds. Donc, l'industrialisation de la chaîne de production, ça permettra de créer des usines localement.
3 jours pour connecter les idées, confronter les savoir-faire et découvrir les innovations qui réinventent nos villes. Reda Mincher et Wilfred Assondebrou, exposants.
Ils représentent tous les matériaux qui composent un tableau électrique dans l'industrie et dans le bâtiment, dans la protection, que ce soit des disjoncteurs, des boutons poussoirs. C'est tout l'ensemble des matériaux électriques qui sont utilisés et c'est avec ça que ça a été composé ce robot.
Aujourd'hui, construire une salle informatique est extrêmement coûteux, prend du temps, a besoin de beaucoup d'experts. La particularité de nos solutions, c'est que vous avez une solution tout en un. Vous venez avec vos serveurs, vous les pluguez, plug and play, et ça marche.
Plus de 200 exposants, 150 marques représentées et des milliers de visiteurs venus d'Afrique, d'Europe, d'Asie et du Moyen-Orient. Building Expo 2025, c'est plus qu'un salon. C'est un catalyseur pour repenser l'habitat, stimuler les investissements et façonner les villes africaines de demain. Mel Berchel et Herman Dogo, Abidjan pour Mehdi 1.
Zoom Express.
Je vous le disais à l'instant, nous allons parler de commerce en ligne en Afrique. Et nous prenons la direction de l'Afrique de l'Ouest pour voir comment ces activités continuent de s'y développer, mais surtout leur adoption par les consommateurs et les utilisateurs locaux. Et nous avons le plaisir d'en parler avec Mustapha El Bouri, directeur général du cabinet Best Afrique. Bonjour à vous, Mustapha El Bouri.
Bonjour.
Je rappelle que le cabinet Best Afrique ainsi que la plateforme Best Afrique aident donc à connecter les diasporas africains et les porteurs de projets. Parmi ces belles expériences que nous avons le plaisir d'évoquer aujourd'hui, c'est celle de Sell and Buy, dont nous avons aussi avec nous en ligne depuis Dakar, le CEO Samba Diangha. Bonjour à vous, Samba Diangha.
Bonjour, Monsieur Omar Baldé.
Alors,
merci pour l'invitation.
Je vous en prie, c'est avec grand plaisir. Tout d'abord, Mustapha El Bouri, parlez-nous du développement et de l'émergence de ces activités de commerce en ligne en Afrique de façon générale.
Oui, Omar, c'est vrai que le marché du commerce en ligne s'est développé de façon, je dirais, exponentielle ces dernières années, hein. Dans tous les secteurs principalement. On a des success stories, comme on dirait en anglais, comme Jumia, par exemple, qui a été développé au Nigeria il y a quelques années, qui est devenu à un certain moment une licorne même, et voilà, qui est maintenant coté en bourse au marché de New York. Hein. On a plein de plateformes maintenant aussi qui commercialisent différents produits agroalimentaires, et ceci, donc maintenant on trouve des plateformes de e-commerce vraiment dans tous les secteurs. Et je pense que ceci a été aussi facilité par le paiement en ligne et les mobile money.
L'inclusion donc financière. Alors, parmi ces exemples, il y a celui de Sell and Buy, dont nous avons le plaisir d'avoir le CEO avec nous, Samba Diangha. Je le disais, il est en direct avec nous depuis Dakar au Sénégal. Parlez-nous justement de l'expérience de Sell and Buy, qui, je rappelle, est une plateforme digitale basée au Sénégal, mais également active en Afrique de l'Ouest. Alors, parlez-nous de l'évolution de votre plateforme.
Bon, Sell and Buy est une première plateforme digitale et innovatrice de la mode. C'est un nouveau style de boutique de friperie, mais en ligne, pas comme dans un espace physique. Et Sell and Buy, étant une version moderne de la friperie, elle permet de connecter vendeurs et acheteurs en seconde main et en particulier s'occupe que des vêtements, des chaussures et accessoires, et de toute tranche d'âge. Comme nous le savons, le Sénégal est un pays très actif dans le marché de la seconde main. Mais le temps coûte cher et les déplacements deviennent de plus en plus difficiles avec des embouteillages infernales dans la région de Dakar surtout. Et des fois aussi, nous assistons aussi à des déguerpissements souvent de ces vendeurs de fripes. Avec Sell and Buy, la plateforme permet d'acheter et de vendre et ainsi d'aider à prolonger la durée de vie des vêtements, à avoir une alternative face à l'achat de neuf.
Avoir l'alternative face à l'achat. Alors, quelle est l'évolution de la plateforme ces derniers mois?
Bon, la plateforme a pris un peu plus de 6 mois de développement et a été lancée il y a juste 2 mois. Donc, actuellement, nous sommes à plusieurs centaines d'utilisateurs et de transactions.
Alors, sentez-vous, il est vrai que le marché de la friperie est bien développé à travers le continent. Dans le cas du Sénégal, certainement c'est le cas. Comment les utilisateurs ou bien le public et les consommateurs, quel intérêt manifestent-ils par rapport à ce concept?
Ils sont vraiment contents parce que, comme nous le savons tous, les déplacements sont vraiment un problème maintenant dans la région de Dakar. Donc, les utilisateurs, ils sont contents d'avoir un site, une plateforme maintenant qui leur permet de rester chez eux, de prendre des photos de leurs articles et de les acheter et d'avoir un vendeur en un clic et recevoir leur argent sous 24 heures dans la même journée.
Alors, Mustapha El Bouri, on parlait de cette inclusion financière. D'ailleurs, on parlera avec notre invité de tout à l'heure de cet aspect-là. On parlera de l'industrie financière africaine. Alors, globalement, qu'échangent ou qu'achètent les consommateurs du continent à travers le commerce en ligne?
Au jour d'aujourd'hui, je pense que si on prend le comme je l'ai mentionné tout à l'heure, la principale plateforme d'échange d'e-commerce aujourd'hui en Afrique, il faut le reconnaître, c'est Jumia. Et quand on voit Jumia, c'est vrai que maintenant, Jumia avait commencé par tout ce qui était accessoires électroniques à la base. Au jour d'aujourd'hui, quand on rentre sur la plateforme, on trouve de tout. Ça va des boissons, de l'agroalimentaire, On trouve maintenant de tout, des accessoires, d'électronique. Bon, c'est vrai que maintenant, au jour d'aujourd'hui, le vêtement, comme disait le commerce de vêtements, il y a encore beaucoup à faire. Mmh. C'est quand même un domaine qui s'est solidement implanté, je pense, et qui joue un rôle de primordial dans l'économie africaine. Juste pour donner un chiffre, l'année dernière, il y a près de 1,4 milliard de vêtements de seconde main qui ont été importés sur le continent. Voilà. Au Sénégal, c'est près de 1000 tonnes de friperies. Donc c'est quand même un marché économique très très important. Pour de nombreux Africains, ce secteur, je pense que s'il offre aussi, il ne faut pas l'oublier, c'est des opportunités cruciales en termes d'emploi et de revenus. L'utilité, l'accès, c'est vrai, en ligne, ça va permettre d'augmenter un peu le volume d'échanges.
Alors, Samba Diankha, une dernière question pour vous, c'est aujourd'hui, quelles sont les perspectives de développement d'une plateforme comme la vôtre?
Bon, les perspectives de développement, c'est d'avoir une application qui permet vraiment de connecter toutes les régions du Sénégal et même un peu partout dans les pays de la sous-région, en permettant de favoriser une économie circulaire, une durabilité et de sensibiliser aussi les personnes à favoriser les éco-gestes.
Favoriser donc l'ensemble de ces écosystèmes. Merci à vous, Samba Diankha. Je rappelle que vous êtes le CEO de Sell and Buy, une plateforme donc de commerce en ligne basée au Sénégal et en Afrique de l'Ouest. Merci également à Moustapha El Bouri. Vous êtes le directeur général de la plateforme Best Afrique qui connecte les investisseurs des diasporas africaines. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci Omar, c'est un plaisir.
À très bientôt.
Coémergence, l'invité.
Notre invitée s'appelle Ramatoulaye Goudjabi. Elle est la directrice de l'Africa Financial Summit Office. Avec elle, nous parlons de l'industrie financière africaine, une industrie en pleine mutation, mais qui doit faire face à de nombreux défis, notamment les cyber-risques, par exemple. On en parlera en détail. Bonjour à vous, Ramatoulaye Goudjabi. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour Monsieur Baldé et merci de me recevoir.
Alors tout d'abord, le baromètre de l'industrie financière africaine a été publié récemment et ce baromètre met en lumière les mutations en cours, hein, on en parlait, ainsi que les stratégies adoptées et les défis à venir. Alors, à votre avis, quelles sont les principales tendances qui façonnent actuellement l'industrie financière africaine?
Alors, la dernière édition du baromètre met en lumière une transformation rapide du secteur financier africain porté par trois grandes dynamiques que j'ai envie d'explorer avec vous ce matin, qui sont la digitalisation des défis macroéconomiques assez persistants et puis une intégration régionale encore inachevée. Alors, si on prend le premier point, donc la digitalisation et la modernisation des services financiers, on se rend compte que la digitalisation est devenue un moteur clé dans la transformation de l'industrie financière africaine. L'essor des fintech et des infrastructures numériques accélère cette modernisation des services financiers. L'open banking et l'intelligence artificielle, ainsi que le cloud computing, transforment l'offre de services, ce qui rend en fait les transactions beaucoup plus rapides et accessibles. Par exemple, on a le système panafricain de paiement et de règlement PAPS, qui facilite les transactions transfrontalières, même si son adoption reste encore limitée, c'est ce qu'on voit dans le baromètre. Cependant, ce qu'on voit également au niveau de la digitalisation, c'est que cette évolution, elle pose aussi des défis en matière d'inclusion financière et de cybersécurité qui sont encore insuffisamment maîtrisés. Dans les défis macroéconomiques et au niveau de l'instabilité financière, on se rend compte que l'inflation reste la principale préoccupation des acteurs du secteur devant l'instabilité politique et tout ce qui est cybermenace.
Oui, justement, on va parler de ces cybermenaces et cyberrisques. Hein, autrement dit, c'est d'ailleurs ma deuxième question. Alors, on fait état que ces cyberrisques sont désormais perçus comme plus préoccupants que les risques financiers traditionnels hein, dans l'industrie financière africaine. Dans ce cas ou face à cette situation, quelles sont les stratégies qui, selon vous, doivent être mises en place afin de mieux protéger les institutions et leurs clients?
Alors, je pense qu'il faut tout d'abord renforcer la résilience des infrastructures numériques.
Les institutions financières, elles doivent moderniser leur système informatique en adoptant des solutions de sécurité comme le chiffrement des données, l'authentification multifactorielle pour ne citer que ces deux-là. Par exemple, on a certaines banques africaines qui utilisent déjà l'IA pour surveiller les transactions en temps réel, ce qui leur permet en fait d'identifier, de bloquer une fraude avant qu'elle ne se produise de manière récurrente. Ensuite, il faut former les employés et sensibiliser les clients. On a 70% des cyberattaques qui exploitent des erreurs humaines comme des mots de passe qui sont faiblement constitués ou des clics sur des liens frauduleux. Il est donc crucial de former continuellement les employés des institutions financières pour qu'ils puissent identifier et prévenir ces menaces. Et enfin, il faut développer une collaboration régionale contre la cybercriminalité. Les cyberattaques ne connaissent pas de frontières, on le sait. Donc il est donc essentiel que les institutions financières, les régulateurs et les gouvernements africains travaillent ensemble pour mieux partager les informations et les menaces. Et par exemple, le Centre africain de cybersécurité qui est basé en Côte d'Ivoire, pour ne citer que celui-ci, c'est un bon exemple vraiment d'initiative qui vise à renforcer la coopération régionale face aux cybermenaces.
Alors, cela dit, dans cette édition 2024 du baromètre, il est aussi question de gouvernance et de ces fameux administrateurs indépendants. Parlez-nous de l'évolution de leur intégration dans ces institutions et peut-être aussi de l'évolution que cela devrait favoriser.
Alors merci Monsieur Baldé pour cette question qui touche à un enjeu vraiment essentiel. La gouvernance des institutions financières africaines, elle est en pleine transformation avec une volonté affirmée de renforcer la transparence, la prise de décision stratégique et la diversité au sein des conseils d'administration. L'essor des administrateurs indépendants est un signal positif, c'est ce qu'on voit dans le baromètre, mais la progression vers une meilleure parité, elle reste encore trop lente. Aujourd'hui, seulement 14% des sièges d'administrateurs dans les institutions financières africaines sont occupés par des femmes, malgré les nombreux bénéfices prouvés d'une gouvernance plus inclusive, notamment en termes de performance, de gestion des risques et de prise de décision. Alors je pense qu'il faut déjà imposer des quotas ou fixer des objectifs volontaires. Un des leviers majeurs consisterait à imposer donc des quotas et à encourager en fait ces objectifs volontaires en matière de parité. Un pays comme le Maroc d'ailleurs et l'Afrique du Sud, ils ont déjà adopté des réformes dans ce sens. Ensuite, il faut développer un vivier de talents féminins. On manque de candidates qualifiées et c'est souvent évoqué comme un frein, mais la réalité est différente. On a de nombreuses femmes qui occupent déjà des postes clés dans la finance, la gestion des risques ou la conformité, mais qui peinent à accéder au conseil d'administration. On a beaucoup d'initiatives comme Women in Finance Africa ou le programme de mentoring de l'African Women Leadership Fund qui joue un rôle clé pour former et accompagner des femmes vers ces rôles stratégiques. Enfin, je pense qu'il faut il faut sensibiliser et engager les actionnaires et les dirigeants par rapport à ça. La diversité dans les conseils d'administration ne doit pas être perçue comme une contrainte, je pense, mais comme un véritable levier de performance, et surtout parce que les investisseurs institutionnels peuvent conditionner leur investissement à une meilleure représentation des femmes dans les organes de gouvernance.
En tout cas, c'est noté. Alors, une dernière question qui me vient à l'esprit. On ne peut jamais parler du secteur financier africain sans parler de ses perspectives. Quelle est la météo de cette industrie financière que vous pouvez nous faire, Ramatoulaye Goudjabi? Je rappelle que vous êtes la directrice de l'AFIS, qui est l'Africa Financial Summit.
Alors, en quelques mots, je pourrais vous dire que l'industrie financière africaine, elle reste résiliente. On se rend compte déjà qu'en termes de solvabilité et de rentabilité, l'ensemble de l'écosystème est resté plutôt résilient, même si on voit une dégradation dans certains secteurs comme les fintech, par exemple, de la rentabilité et de la qualité d'actifs pour le secteur bancaire. Mais on se rend compte aussi que, et je l'ai dit tout à l'heure, l'intégration régionale et la finance durable progressent à un rythme, mais à un rythme encore lent en Afrique. On a seulement 4% des institutions financières, malgré un intérêt croissant, qui disposent d'un reporting structuré de leurs empreintes carbone, qui illustre en fait un retard dans le développement de produits financiers verts. On a aussi, par exemple, des initiatives comme AELP, African Exchange Linked Project, et le PAPS, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui ne sont opérationnels qu'à 7% et 20% respectivement. Et ces dynamiques, elles restent freinées par une fragmentation réglementaire persistante et un manque d'infrastructures adaptées qui limitent encore les flux d'investissement intra-africains et la croissance du secteur financier. Et enfin, et j'en ai parlé tout à l'heure, l'inflation demeure la principale préoccupation des acteurs du secteur, notamment pour 54% des sondés, devant l'instabilité politique et les cybermenaces. Mais on a quand même une adaptation qui est forte. On a 88% des banques qui ont révisé leur allocation d'actifs, tandis que les banques centrales comme la BCAO et la Banque centrale du Nigeria ont durci leur politique monétaire, et récemment d'ailleurs le Kenya, leur politique monétaire, mais aussi leur politique au niveau de la solvabilité pour leurs banques. Donc toutes les banques doivent renforcer leurs fonds propres pour être capables de supporter des chocs exogènes.
Oui, à vous entendre parler, on sent la passion et vraiment cette énergie qui se dégage, surtout que vous parlez d'un secteur qui vous passionne tant et qui est votre, qui vous occupe en plein temps, donc le secteur financier. Je rappelle que Ramatoulaye Goudiaby, vous êtes la directrice de l'Africa Financial Summit, donc l'AFIS dont vous nous avez parlé, des évolutions mais aussi des risques. Et je rappelle que la dernière édition de l'Africa Financial Summit s'est tenue récemment à Casablanca, ici au Maroc. Merci d'avoir accepté notre invitation, Ramatoulaye Goudiaby.
C'est moi qui vous remercie. Je vous donne de nouveau rendez-vous au Maroc, où se tiendra la 4e édition de l'Africa Financial Summit.
Rendez-vous donc est pris pour l'année prochaine. Merci à vous.
Merci, M. Baldé.
Merci à vous aussi de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Je rappelle que vous pouvez retrouver Quoi Émergence sur notre plateforme Medium Podcast ainsi que sur les plateformes de podcast habituelles. Bonne suite de programme sur Medium et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Inch'Allah.